Bienvenue à Extravagance. Le message que vous allez écouter vous est présenté par le pasteur Steve Rivière. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente écoute.
Ce soir, j'ai un message très simple pour vous et qui est en lien avec le dernier chant qu'on a fait à l'instant. On a chanté et les paroles de ce chant commençaient en disant « Mes yeux sont sur toi ». Rien ne me troublera. Mais je vous garantis que bien souvent, vous et moi, nos yeux ne sont pas sur lui. On a beau chanter, on a beau dire « Seigneur, mes yeux sont sur toi, rien ne me troublera. » Ah oui. Et pourtant, fixer nos regards sur Jésus est crucial pour avoir une vie de victoire, riche en paix, riche en joie. Le problème, c'est que beaucoup parmi nous qui sont présents dans ce lieu ce soir, nous n'avons pas réellement nos yeux fixés sur lui. Même dans l'adoration, les yeux peuvent être fixés sur ce qui se passe dans la salle. Nos yeux peuvent être fixés sur nos problèmes. Nos yeux peuvent être fixés sur nos besoins. On est là, mais on n'est pas là. On chante « Mes yeux sont sur toi », mais on n'est pas vraiment fixé sur Jésus. Et pourtant, j'aimerais vous encourager ce soir à comprendre qu'il faut que tu gardes en tout temps tes yeux fixés sur Jésus. Ce soir, le message va être simple et court. C'est un message qui a pour but de vous encourager, puisque le Seigneur a mis dans mon cœur, tout simplement, de vous dire, précieux peuple de Dieu, que ce chant et ces paroles qui parlent de fixer nos regards sur Jésus, ce n'est pas juste des belles paroles. Ce n'est pas juste un chant, c'est bien plus que ça. Celui et celle qui arrive à pratiquer ça fait toute la différence. Écoutez bien ce que dit la parole de Dieu dans Hébreux 12, versets 1 et 2, dans la version Louis II. Il est écrit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Donc ici, la parole de Dieu dans ce passage est claire. La parole de Dieu nous donne un principe vital. Ta vie, ma vie, ta joie, ma joie, ta paix, ma paix, ta percée spirituelle, ma percée spirituelle en dépend. Et la Bible dit, fixez vos regards sur Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de la foi. Et ça, c'est un principe primordial. Car celui ou celle qui vit et pratique ce qui est écrit ici, je vous garantis, sa vie est une vie riche en joie, riche en paix, malgré les soucis, malgré les difficultés. Et le même passage dans la version Le Semeur, Hébreux 12, 1 et 2, nous dit ceci. C'est pourquoi, nous aussi qui sommes entourés d'une foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés. Et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait vu la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte, attaché à un tel supplice, et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Regarde ton voisin, ta voisine, et dis-lui, garde tes yeux fixés sur Jésus. Le matin, c'est une prière que je t'encourage à faire. Que tu te lèves le matin et de dire au Seigneur, « Seigneur, dans tout ce que je vais rencontrer aujourd'hui, car je ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Seigneur, aide-moi à garder mes yeux fixés sur Jésus. » Parce que Jésus est l'auteur, le consommateur de la foi. Cela signifie qu'il est le créateur. C'est lui qui a fait naître la foi en nous. C'est lui qui a créé la foi en nous. Il est la source de notre foi. Mais le mot consommateur, en réalité, n'est pas très bien traduit dans la version Louis II. C'est réellement, dans la version Le Semeur, qu'on comprend mieux son sens, où la Bible dit que c'est lui qui mène notre foi à la perfection. C'est-à-dire, c'est lui qui fait en sorte que ta foi, ma foi, devienne mature. Mais pour ça, il nous faut garder les yeux fixés sur Jésus. Quand nos yeux ne sont pas sur Jésus, la foi ne peut pas se développer. La foi ne peut pas arriver à maturité. Et donc ici, c'est une des stratégies que Dieu nous donne pour que notre foi ne faille pas. Et vous savez, l'ennemi sait, Satan, sait que du moment où il arrive à faire en sorte que des hommes ou des femmes, que les enfants de Dieu que nous sommes, tirent leur regard, enlèvent leur regard de Jésus, alors il sait que notre foi risque de défaillir. Et donc c'est une de ses stratégies favorites aussi à l'ennemi. Il va faire toutes sortes de choses pour détourner nos regards de Jésus. Il va utiliser les circonstances, il va utiliser l'offense, il va utiliser les gens qu'on aime et les gens qu'on n'aime pas. Il va utiliser nos incompréhensions, il va utiliser des séductions, il va utiliser des tentations, il va utiliser toutes sortes de déceptions, il va utiliser toutes sortes de distractions pour que nos regards ne soient pas fixés sur Jésus. Et ce soir, le Seigneur veut nous encourager à fixer nos regards sur Jésus, car c'est lui qui crée la foi en nous. C'est lui qui amène la foi à la perfection en nous. Ce n'est pas une église, c'est Jésus qui amène notre foi à la perfection. Ce n'est pas un groupe de louanges, ni même un pasteur. C'est Jésus qui emmène notre foi à la perfection. Et ça, c'est très important. Parce que l'ennemi va utiliser les circonstances et les situations ou les gens pour essayer de faire en sorte que nos regards ne soient pas fixés sur Jésus. Pourquoi est-il si vital d'avoir nos regards fixés sur le roi des rois? On a vu que oui, un des premiers points, c'est que c'est lui qui amène notre foi à maturité. Donc si tu veux avoir une foi forte dans tes difficultés aujourd'hui, pose-toi la question. Est-ce que tes regards dans tes difficultés sont plus focalisés sur tes difficultés, sur tes besoins ou sur Jésus lui-même? Parce que la force de notre foi dépend de où on fixe nos regards. Lorsqu'on parle de regards, bien sûr, on ne parle pas de d'œil physique, comprenez? Parce que Jésus, on ne le voit pas physiquement. La Bible dit nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Ça parle d'une pensée qui voit le roi des rois. Ça parle d'un cœur qui reste connecté à Jésus. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites monter vers Dieu vos prières, vos besoins, par des prières et des supplications avec action de grâce. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et la paix de Dieu fera en sorte que vous resterez fixés sur Jésus-Christ. Et la paix de Dieu fera en sorte que votre cœur et vos regards vont fixer le roi de gloire. Donc ça parle d'un regard spirituel. Ça parle des yeux du cœur. Et c'est ce que Dieu veut. Que quelles que soient les situations que tu traverses aujourd'hui, mauvaises ou bonnes, le succès peut faire en sorte que quelqu'un aussi détourne ses regards de Jésus. Donc, quelles que soient les situations, bonnes ou mauvaises, fixe tes regards sur le roi des rois. Car c'est lui qui amène notre foi à maturité. Et lorsque nous avons les yeux fixés sur Jésus, alors la force de Jésus devient notre force. Alors les qualités de Jésus deviennent nos qualités. L'amour de Dieu en nous devient l'amour de Dieu au travers de nous. Sa paix devient ta paix. Sa joie devient notre joie. Alors nos cœurs sont connectés à lui. Et dans une relation intime avec lui, on devient réellement un enfant de Dieu. C'est ce qu'on est. Et pour le devenir, il faut toujours fixer nos regards sur Jésus. Les hommes peuvent nous décevoir. Le plus grand homme de Dieu sur terre peut te décevoir. Fixe tes regards sur Jésus. C'est très important. C'est ce que Dieu veut. Et on a déjà vu il y a quelque temps de ça un message. Et là, je ferai juste un rappel. Une des façons pour nous de constamment focaliser nos regards sur Jésus, c'est de regarder à ce que Jésus fait et non pas à ce que Jésus ne fait pas. Il y a des choses dans ta vie aujourd'hui, il y a des prières dans ta vie, dans ma vie aujourd'hui, qui sont sans réponse. Si nous restons fixés sur nos prières sans réponse à ce que Dieu ne fait pas, la foi ne grandira pas. Regarde à ce que Dieu fait si tu veux avoir une foi fortifiée. C'est ce que Jésus a dit à Jean-Baptiste lorsque Jean-Baptiste était en prison. Et que Jean-Baptiste, qui avait vu la colombe descendre sur Jésus, qui a dit « Voici le Christ, le Fils de Dieu. » Lorsqu'il est en prison, il envoie ses disciples, il est dans le doute. Parce qu'il a dit « Voici le libérateur, celui qui va délivrer les captifs. » Et là, Jean-Baptiste est captif, il est en prison. Et Jésus ne vient pas le délivrer. Il doute, il se questionne, il ne comprend pas les circonstances qui sont autour de lui, qui l'environnent. Il ne comprend pas. Et il envoie ses disciples vers Jésus. Et il dit, demandez-lui si c'est bien lui qui devait venir. Et Jésus ne donne pas une grande explication. Jésus manifeste sa puissance. Les miracles, des signes, des prodiges. Et il dit, dites à Jean-Baptiste ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les morts ressuscitent. Heureux celui qui ne s'offense pas à cause de moi. Jésus est en train de dire, Jean comprend quelque chose. Ne regarde pas ce que je ne fais pas, regarde à ce que je fais. Si tu veux fixer tes regards sur Jésus, ne regarde pas ce que tu crois, ce que tu ne comprends pas, que Jésus ne fait pas dans ta vie aujourd'hui. Regarde à ce qu'il fait, à ce qu'il a déjà fait. Si tu veux que ta foi soit amenée à la perfection, c'est très important. Jésus est celui qui va faire grandir notre foi. Donc regarde à ce que Jésus fait, à ce qu'il a déjà fait, à ce qu'il va continuer de faire. Vous savez, Jésus est celui qui guérit, oui ou non ? Et ce n'est pas parfois parce qu'il ne guérit pas que Jésus ne guérit pas. Est-ce que vous me suivez? On met ce bandana pour être réellement solidaire avec ceux qui souffrent du cancer, parce qu'on a une amie qui souffre du cancer. Et on prie pour elle. Et comme il y a déjà eu des guérisons ici de personnes qui ont été guéries du cancer, on croit que Dieu va aussi la guérir. Mais parfois, les choses ne se passent pas comme on le souhaite. Quand Jésus envoie ses disciples avec toute la puissance pour ressusciter les morts, guérir les malades, chasser les démons, à un moment donné, un père emmène son fils devant Jésus, devant les disciples de Jésus, et les disciples n'arrivent pas à chasser le démon. Et Jésus n'est pas content avec les disciples et dit, mais vous êtes trop incrédules. Imaginez que le père n'était pas revenu voir Jésus pour que Jésus chasse le démon de cet enfant. Cet enfant n'aurait pas été délivré. Les disciples auraient prié pour lui, mais ça n'aurait pas marché. Est-ce que cela signifie que la volonté de Dieu est que cet enfant ne soit pas délivré? Non, ce n'est pas la volonté de Dieu que cet enfant ne soit pas délivré. C'est sa volonté que cet enfant est délivré. Mais à un moment donné, les disciples ont échoué. Et si cet homme-là avait regardé aux échecs des disciples, et s'il n'avait pas regardé à Jésus, son fils n'aurait pas reçu la délivrance. Combien de fois les gens quittent l'église parce qu'ils sont déçus par les hommes? Au lieu de fixer tes regards sur Jésus. Et ici, quand Jésus guérit, on voit que c'est sa volonté de guérir. Parce qu'il est celui qui guérit. Il est la vérité. Et la vérité, c'est que Jésus guérit. Et souvent, nous devons comprendre que pour fixer nos regards sur Jésus, il faut fixer nos regards sur la vérité qu'il est. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut que la vérité devienne ta vérité. Il faut que la vérité devienne ta vérité. C'est-à-dire, il faut expérimenter le Dieu qu'il est. C'est très important. Il y a une différence entre les faits, les circonstances, et la vérité. La vérité qui est Jésus, je suis le chemin, dit Jésus, la vérité et la vie, a la puissance pour changer les circonstances. Mais si on fixe nos regards sur les circonstances, on risque de douter. Mais si on fixe nos regards sur la vérité et qu'on persévère, la vérité va devenir ta vérité. Et tu vas expérimenter cette réalité surpuissante. Et tu vas devenir un témoin. Un témoin qu'il est celui qui guérit parce qu'il t'a guéri. Un témoin qu'il est celui qui le sauve parce qu'il t'a sauvé. Un témoin de celui qui est le prince de paix parce que tu as trouvé la paix. Un témoin de celui qui est le prince de la joie parce que tu as trouvé la joie. Et c'est très important. Fixer nos regards sur Jésus et chanter « Rien ne me troublera », ce n'est pas qu'un chant. C'est bien plus que ça. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Il veut que la vérité devienne ta vérité. Si Jésus est mon roc, s'il est le rocher, alors il faut qu'il devienne ton roc. S'il est un abri, il faut qu'il devienne ton refuge. Fixe tes regards sur Jésus. Il faut que la vérité devienne ta vérité et que cette vérité devienne une réalité en toi. C'est très important. C'est-à-dire que parfois, même si les circonstances extérieures n'ont pas changé, eh bien, nous savons que nous avons déjà obtenu la victoire à l'intérieur. La paix et la joie est là et manifeste. Vous connaissez tous l'histoire de Joseph, pour la plupart d'entre vous, le fils de Jacob, un des fils de Jacob. Imaginez Joseph, le fils préféré de son papa, trahi par ses frères, fait passer pour mort, vendu en tant qu'esclave, esclave chez Potiphar, un serviteur irréprochable, la femme de Potiphar, son maître, veut coucher avec lui, il est intègre, il ne fait rien, il fuit, elle ment sur lui, il fait 2 ans de prison à cause de ça. Waouh ! Je veux dire, il y a de quoi, s'il fixe ses regards sur les circonstances, dépérir. Il y a de quoi être dans une dépression. Il quitte sa famille très jeune, il va vivre dans un esclave chez quelqu'un, il fait tout ce qui est bien, on le rend pour le bien qu'il fait le mal, il fait 2 ans de prison, et pourtant, Joseph fixait toujours ses regards sur Dieu. J'aimerais que tu puisses comprendre avec moi ce soir que fixer ses regards sur Jésus, c'est vraiment différent de fixer ses regards sur les circonstances. Parce que toi et moi, parfois, et même souvent, nous ne comprenons pas les circonstances. Mais ce n'est pas parce que les circonstances, parfois, ne se déroulent pas comme on le souhaiterait que Dieu n'est pas avec nous et que ses regards n'est pas sur nous. Alors nous devons aussi avoir toujours nos regards sur lui. Dans Genèse 39, on voit ici Joseph qui va en prison. Une fois qu'il est faussement accusé par la femme de Potiphar, il est écrit « Il prit Joseph et le mit en prison dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison et l'Éternel fut avec Joseph. » Et l'Éternel fut avec Joseph. Dans la prison, quand ça va mal, quand les circonstances t'accusent, quand les gens t'accusent, Dieu dit et l'Éternel était avec lui. Et parfois, quand les circonstances vont mal, on croit que Dieu n'est plus avec nous. Parfois, lorsque les choses tournent pas rond, on croit que Dieu n'est plus là. Mais non. Fixe tes regards sur Jésus. Jean-Baptiste, dans la prison, avait commencé à dire « Oh, peut-être que Dieu n'était plus avec moi. » Et pourtant, si. Quand on fixe nos regards sur le roi des rois, sa paix qui surpasse toute intelligence, nous dit la parole de Dieu, devient notre paix. Tu peux être tourmenté par des circonstances difficiles, mais le tourment extérieur ne rentre pas à l'intérieur. Et tu as la paix et la force de Dieu. C'est ce que Dieu veut. C'est pour ça que Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit, qui est le consolateur, qui vient nous consoler dans la difficulté. Vous savez, quand tu fixes tes regards sur Jésus, écoute bien ceci. Fixer nos regards sur le roi des rois, et si nos regards sont réellement fixés sur lui, alors sa perception de la situation devient notre perception. Sa perception de nos circonstances, de nos difficultés, devient notre perception, notre façon de voir. C'est très important. Quand tu vois les choses comme Dieu voit, tu es fort. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que le faible dise « Je suis fort ». Que l'aveugle dise « Je peux voir ». C'est-à-dire tu es aveuglé par les circonstances, tu es en prison. Il n'y a pas d'espoir. Selon l'homme, il ne semble pas avoir d'espoir. Mais les yeux de ton cœur sont fixés sur Jésus. Et sa perception devient ta perception. Sa paix devient ta paix. Sa joie devient ta joie. Et tu commences à être rempli d'espérance. Et tu ne vois plus la prison pareille. C'est pour ça que l'apôtre Paul en prison, dans Philippiens, dit à l'église de Philippe, « Réjouissez-vous dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Pourquoi ? Parce que l'apôtre Paul savait que la joie est un ingrédient du royaume de Dieu. Je l'ai déjà dit ici à l'église, les gens qui ne connaissent pas Dieu se réjouissent pour avoir la joie. Mais l'enfant de Dieu, né par le Saint-Esprit, a la joie, c'est pour ça qu'il se réjouisse. C'est pour ça qu'il fait sortir la joie de lui. Parce que quand il pleure, il va dans la présence de Dieu et le consolateur le console. Quand la Bible dit dans Matthieu 5, heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés. Cela ne signifie pas que c'est bien si tu pleures. Cela signifie surtout que c'est bien parce que tu vas être consolé. Heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés. Toi et moi, nous sommes heureux parce que nous serons consolés. Pas parce qu'on pleure. Quand tu vas dans la présence de Dieu, et que tu fixes tes regards sur Jésus, oui, sa joie devient ta joie. Et c'est ce que Dieu veut. Dans sa présence, nous dit la parole de Dieu, il y a d'abondantes joies. Le psaume 16, verset 11, nous dit ceci. Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Tes délices éternelles à ta droite. Des délices éternelles à ta droite. À ta face ici, devant ta face et dans ta présence. Dans la présence de Dieu, il y a de la joie. Dieu veut qu'on rentre, si on rentre dans sa présence accablé, qu'on ressorte fortifié. Dieu veut qu'on rentre dans sa présence, si on rentre dans sa présence et qu'on pleure, il veut qu'on ressorte consolé. Le Saint-Esprit n'est pas appelé le consolateur pour rien. Si on pleure et qu'on reste dans nos pleurs et qu'on va dans sa présence et qu'on pleure toujours, ben c'est que le Saint-Esprit ne nous a pas consolés. Mais s'il ne nous a pas consolés, c'est parce qu'il veut pas, c'est pas parce que lui ne veut pas nous consoler. C'est parce que peut-être nos yeux n'étaient pas réellement fixés sur lui. Mais si nos yeux sont fixés sur lui, et que dans sa présence, on va chercher Dieu, je vous garantis que vous et moi, nous ressortons différents. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Consolés. C'est pour ça que toi et moi, on doit être heureux. On doit être heureux, pas parce qu'on fait pitié. Et le problème de l'église avec un grand E, souvent, c'est ça. C'est que le chrétien croit que plus je fais pitié, plus je suis spirituel. Plus je suis triste, plus je parais saint. Plus je souffre et je goûte, plus je plais à Dieu. N'importe quoi. La Bible dit dans sa présence, il y a d'abondantes joies. Et Jésus dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Comme il est au ciel, il faut que ce soit pareil sur la terre. Et au ciel, dans la présence de Dieu, il y a d'abondantes joies. Je disais dans la semaine à l'école biblique, je disais aux étudiants, dans une réunion de prière, ce qui fait que le ciel est le ciel, c'est parce que Dieu est présent dans le ciel. Enlève Dieu du ciel et le ciel perd toute sa qualité et sa gloire. Mais ce qui fait la différence dans l'église, c'est là aussi la présence de Dieu. Et si Dieu est glorieux dans le ciel, alors il va être aussi glorieux sur la terre. Car Christ en nous est l'espérance de la gloire, nous dit Éphésiens. Et cette gloire de sa présence, quand toi et moi nous entrons dans cette gloire, il y a de la joie. Fixer ses regards sur Jésus, c'est faire en sorte que malgré les difficultés, malgré les soucis, malgré les trahisons, malgré les fausses accusations, malgré les tempêtes de la vie, nous ne sommes pas ébranlés. Et nous avons la paix, car le royaume des cieux ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Car le royaume des cieux ne consiste pas par le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie. Le royaume de Dieu, c'est pas la justice, la paix et la tristesse. Donc, d'où vient cette façon de faire dans l'église avec un grand E que les enfants de Dieu ont? Plus je goûte, plus je souffre, plus je suis triste, plus je parais saint. Parce que Dieu a dit, heureux si je pleure. La vie est dure. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de problème. Mais Dieu veut nous faire comprendre que dans sa présence, il y a d'abondante joie. Vous savez, Jésus n'a pas apprécié la croix. Jésus a enduré la croix. C'est pas pareil. Mais pourquoi il a enduré la croix? Qu'est-ce qui lui a donné la force d'endurer la croix? On a lu tout à l'heure dans Hébreux, et je vais relire pour vous. La Bible dit, gardons les yeux sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il a vu la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort de la croix. Il n'a pas apprécié la croix, il ne voulait pas, il a dit, éloigne cette coupe de moi. Mais parce qu'il avait vu la joie, il a enduré la croix. Si tu ne vois pas la joie que Dieu a pour toi en héritage, ici sur terre, déjà, tu peux goûter à ça, tester ça. Si tu ne vois pas ça, tu auras du mal à traverser les difficultés. Parce que Jésus a traversé, il a enduré la croix parce qu'il avait les yeux fixés sur la joie. Et je vous disais, si tu fixes tes regards sur Jésus, alors tu commences à voir ce que lui voit. Et la Bible dit qu'il a enduré la croix parce qu'il a vu la joie. Il a vu la joie. Il a vu la joie. Sa perception était dépassée les circonstances. Il a vu la joie. Est-ce que toi, tu vois la joie que Dieu a réservée pour toi? Parce qu'il a vu la joie, il a enduré. Et la Bible dit, fixe tes regards sur Jésus, qui va amener ta foi à maturité. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Que tu fixes tes regards sur Jésus, sa perception devient ta perception. La vérité devient ta vérité. Vous savez, Jésus était un homme riche en joie. Jésus n'a pas vécu 33 ans sur terre en faisant pitié. Les gens croient que Jésus a vécu sur terre dans la tristesse et la souffrance. La souffrance de la passion de la croix a duré 24 heures. La Bible dit dans Hébreux, chapitre 1, verset 9, « Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tous tes égaux. » Ici, c'est pourquoi Dieu le Père a oint Dieu le Fils d'une onction, d'une huile de joie supérieure à la normale. Jésus a enduré la croix et Jésus n'a pas enduré la croix. La souffrance de Jésus n'était pas la maladie. Souvent, quand quelqu'un porte une maladie ou est malade, il dit « Mamie, souffre mon enfant. » C'est parce que Dieu corrige à moi. Et ben, je m'y porte ma croix. La croix de Jésus, ce n'était pas la maladie. C'est qu'il a accepté les fausses accusations. Il a accepté la haine. Il a accepté la mort qui est l'aiguillon du péché. Pour que nous puissions recevoir la vie. Il a été notre rançon, il a pris la faute sur lui, afin qu'on soit justifié, afin qu'on soit expié, afin qu'on puisse être racheté par son sang. Non pas à cause de tes efforts ou de mes efforts, non pas à cause de tes œuvres ou de mes œuvres, mais à cause de son œuvre, par sa grâce, par le moyen de la foi. Et Jésus avait une huile de joie. La joie, et la récompense, une des récompenses ultimes dans le royaume de Dieu, dans le ciel. Et souvent, l'Église met l'emphase avec un grand E encore une fois sur « paye le prix, les durs, oh, servir le Seigneur, oh là là, on a un prix pour payer. » Et on oublie de parler des récompenses, on oublie de parler de la joie, on oublie de parler des bénéfices qui ne sont pas à comparer avec le prix à payer. Comme dit l'apôtre Paul dit, mais les légères afflictions du moment ne sont pas à comparer avec le poids de gloire qu'elles nous réservent dans l'avenir. Parce que l'apôtre Paul voyait la joie. Et je m'adresse à toi, est-ce que tu vois la joie? Les gens pensent que pour être plus sain, il faut être plus triste. Non. Matthieu 25, verset 21 nous dit ceci. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. Dans la joie. Il y a d'abondante joie dans sa présence. Dieu veut que toi et moi nous rentrions dans sa joie. Dans la joie de Dieu. Et c'est ce qu'il va nous dire pour ceux qui seront fidèles. Rentre dans la joie de ton maître. La joie de Dieu est une récompense. Et un élément. La joie de Dieu fait partie de sa nature. Jean 16, verset 24 nous dit ceci. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Afin que votre joie soit parfaite. Dieu veut que nous puissions fixer nos regards sur Jésus afin que notre foi grandisse et qu'on voit les choses comme il voit. Mais quand on voit les choses comme il voit, on s'aperçoit que plus loin que le problème que tu traverses aujourd'hui, plus loin que l'épreuve que tu traverses aujourd'hui, il y a d'abondante joie qui t'attend. Mais tu peux déjà tester, goûter, avoir un acompte, un aperçu, oh, de la joie du ciel, parce que le royaume de Dieu est en toi. Le royaume de Dieu ne consiste pas en le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie. Et cette joie-là est sous forme de semence. Et quand tu vas dans sa présence, alors tu commences à goûter et à tester la joie de Dieu. Et la joie de Dieu devient ta force. Fixer ses regards sur Jésus, c'est ça. Vous savez, souvent, d'une manière générale, on assimile la repentance à la tristesse. Et on pense que, oui, un cœur brisé et un cœur qui, en général, est triste, et ce cœur-là est plus apte à recevoir la parole de Dieu. Mais dans Néhémie, le livre de Néhémie au chapitre 8, il y a quelque chose de formidable qui se passe. Dans Néhémie au chapitre 8, on va lire ensemble ce qui se passe et vous allez voir que la repentance n'est pas forcément tout le temps liée à la tristesse. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. » Tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ils leur dirent, « Allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces. » Et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Ici, Néhémie et Esdras lisent la parole de Dieu au peuple. Et le peuple se rend compte ô combien il est loin de Dieu. Ô combien il ne comprend pas les voies de Dieu. Et le peuple veut se repentir. Il veut s'affliger en disant, ô Seigneur, on comprend que nos cœurs ne sont pas bons. Pardon. Il y a quelque chose de formidable. Néhémie dit, non. Comprends que même si tu penses être loin de Dieu, si Dieu te fait remarquer que tu es loin, afin que tu changes ta façon de faire et de penser, parce que ta pensée est peut-être fixée sur tes problèmes, ta pensée est peut-être fixée sur le négatif, ta pensée est peut-être fixée sur le doute et l'incrédulité, ta pensée est peut-être fixée sur les échecs. Et quand tu entends la parole ce soir, et que je te dis fixe tes regards sur Jésus, je te dis aïe aïe aïe, pasteur, mes regards ne sont pas fixés sur Jésus. Et un sentiment en toi qui te dit, ah, je veux changer ça. Et ici, quand la tristesse commence à s'emparer du peuple, Néhémie et Esdras disent, non, faites de ce jour un jour de joie. Parce que si Dieu révèle que tu es loin de lui, ce n'est pas pour te condamner, c'est pour te ramener près de lui. Alors sois content, parce qu'il est bon et miséricordieux, parce qu'il est bienveillant. Et Néhémie dit, non, non, ne soyez pas tristes, parce qu'ils avaient la muraille à construire. Et ce n'était pas facile. Ils devaient être dans l'unité. Et Néhémie et Esdras savaient que si le peuple était trop affligé, parce qu'ils se sentaient condamnés, coupables, ils allaient manquer de force pour l'œuvre de Dieu. Alors Néhémie et Esdras dit, non, faites pas ça. Ne vous affligez pas. Comprenez que Dieu vous aime. Et il veut juste vous convaincre de pécher. Mais Dieu aime le pécheur. Alors soyez dans la joie. Revenez vers Dieu. Fixez vos regards sur l'Éternel. Fixe tes regards sur Jésus. Rejette tout fardeau. Fais attention, rejette la séduction du péché. Mais sois content que Dieu te tend la main. Sois content qu'il t'appelle. Il ne te condamne pas. Il veut animer la joie du règne de Dieu en toi. Car la joie de l'Éternel sera votre force. Donc ce soir, comprends bien une chose. Quelle que soit ta situation, fixe tes regards sur Jésus. Et si tes regards sont fixés sur Jésus, sa perception devient ta perception. Quelle est la perception de ton couple aujourd'hui? Quelle est ta perception de ta famille aujourd'hui? Quelle est la perception de ton travail aujourd'hui? Quelle est la perception de ta souffrance aujourd'hui? Es-tu peut-être dans la dépression? Ne te sens pas coupable, mais comprends une chose. Fixe tes regards sur Jésus, car dans la présence de Dieu et devant sa face, il y a d'abondantes joies. Et la joie de Dieu sera notre force. Et c'est ce que Dieu veut pour toi et pour moi. La joie de Dieu est la récompense des enfants de Dieu. C'est bon ça. C'est même très très bon ça. il y aurait beaucoup moins de chrétiens en dépression. Il y aurait beaucoup moins d'inquiétude. Fixe tes regards sur Jésus. Regarde ce que Jésus fait et non pas ce que Jésus ne fait pas. Il y a un avenir et de l'espérance pour toi et moi. Et Dieu est bon. Amen.